Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Sa vie commence comme dans Fric Frac de Claude Autant-Lara, à l'ancienne, business artisanal, braquage maison, avec de l'honneur et des règles d'or. Elle se poursuit dans un film de Lautner, avec un peu plus d'action et de roulage de mécanique. Puis elle prend l'ampleur d'un thriller à l'américaine, avec pas mal de poudre, d'évasion et d'hélicoptère, une sorte de Scarface sur la canebière, petit bras quand même. Il se la coule désormais comme dans une série Netflix tournée à Marseille par Thomas Gilou. Le braqueur a pris sa retraite, vit de petits jobs, dit-il, et se fait aider par deux anciens collègues qui ne veulent pas le voir replonger. Ses revenus en réalité sont un peu flous, le montant de ses gains passés aussi. Pas sûr qu'il se soit fait choper pour tout, qu'il n'en ait pas mis un peu à gauche. Il n'a jamais travaillé, il assume son histoire et ne touche pas plus de RSA que d'aide quelconque. Son père était ouvrier, sa mère faisait des ménages. Il appartient à une fratrie de 8 enfants qui ont grandi à Marseille. Parmi ses frères et ses sœurs, il est le seul à avoir eu un destin aussi cinématographique, enfin dans une veine sociale, un peu auteur, parfois glauque. Il est le seul à avoir pris donc une mauvaise voie, qu'il a empruntée très tôt, comme un destin, un chemin tracé, celui de la thune facile, des petits vols, puis des gros braquages, en passant par le deal et les années de prison. C'est l'histoire d'un braqueur marseillais, un truand qui dit tout, un ancien qui balance, un rangé des voitures qui en lâche un peu sur le milieu. Dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, c'est notre film « À nous jusqu'à 14h » par Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Un beau braquage, c'est de rentrer sans violence, repartir, prendre les sous, et que les victimes ne soient pas traumatisées. Je suis le troisième d'une fratrie de 8, nous, quand même. Ma mère, elle n'avait pas trop le temps. J'ai eu une mère, moi, c'est de l'or, hein, je veux dire. Elle s'est toujours cassée, saignée les veines. Ma mère, elle a élevé 8 petits toute seule. On a toujours mangé à notre faim. Elle s'est levée à 3 heures du matin pour aller faire des ménages toute la journée. Mais elle ne peut pas s'occuper de nous. Nous, à côté, derrière, on lui fait des sourires. Oui, maman, tout va bien. Et derrière, on fait nos conneries. Hein, Mon père, il est mort. J'avais l'âge de 13 ans. C'est arrivé juste 3 jours avant Noël. Tellement, je pensais pas qu'il était mort que le lendemain, je suis allé faire des conneries, je me suis fait attraper par la police. Et la police, elle m'a ramené à la maison, ils ont vu que la maison, elle était en deuil, il pleurait tout le monde, ils ne comprenaient pas. Et pour moi, mon père n'était pas mort. Je ne l'avais pas accepté encore. J'ai volé un vélo moteur. C'est les motards qui m'ont arrêté. Ils m'avaient attaché avec la menotte derrière et ils me traînaient. J'avais les bras tellement petits que la menotte, elle sortait toute seule. Alors ça fait qu'ils faisaient que me courir derrière. Je crois qu'ils m'ont appris, ils m'ont attaché, ils m'ont attrapé. Ils ont attendu que le fourgon arrive pour qu'ils puissent me mettre dedans. Parce qu'ils voulaient compter m'amener, traîner comme un cheval derrière jusqu'au commissariat. Et chaque fois qu'il accélérait, la menotte, elle sortait. Je repartais en courant. Et ça n'a pas empêché qu'une semaine après, je recommençais encore des conneries. Voilà, je m'en foutais de tout le monde, je veux dire. J'ai toujours été marginal dans ma vie. Toujours été en colère contre la société, j'ai jamais voulu faire partie de la société. J'étais, comme on dirait maintenant, un petit délinquant, je veux dire, faisais des quelques conneries, c'est-à-dire tu vas voler une voiture, tu vas voler un magasin, je veux dire, tu vas pas à l'école, le truc banal. Après que je me sois fait arrêter par la police pour le vélo moteur et qu'il m'a mené, le commissaire m'a mené, le juge, 6 mois plus tard, il m'a convoqué et il a dit à ma mère qu'il me levait, qu'il me mettait dans un centre fermé. Il était à 800 mètres. Si j'aurais monté sur le toit de ce bâtiment, j'aurais vu mon balcon. Ah oui, c'est ça qui est encore plus dur. Ma mère ne voulait pas ça. Ma mère, ça a été, on lui a arraché le cœur quand on lui a fait ça, on lui a levé son fils. Ma mère, ça, son visage, je me rappelle ça. Elle pleure, ma mère. Ça, ça lui a fait mal. Le père et Marie, on lui enlève son fils. C'est comme s'ils avaient mis un coup de couteau à ma mère. Pour quelle raison ils m'enlèvent ? On aurait pu mettre un éducateur, j'aurais pu rester à la maison. Mais là, il n'y a rien. Pour moi, le fait d'avoir enlevé ma mère, j'ai une haine envers la société. Et société avec un grand S. Hein. Tout ce qui est autorité, tout ce qui est bleu, tout ce qui est... Je ne peux plus les voir. Ils m'ont laissé 6 mois dans ce centre. Et au bout de 6 mois, ouais, c'est cela, ils m'ont envoyé dans un autre centre fermé, mais dans la montagne, dans les Alpes. Au plateau de Ganagobi. Rien que le nom, il fait rigoler. On dormait, on entendait les sangliers derrière. Là, c'est l'école, de la connerie, comme on dit, des bêtises, on gagne de l'argent, on vole des sous, on se sent 100 mètres du monde. Je suis rentré, j'avais 13 ans dans cet établissement, et j'ai sorti à 18 ans. Et j'ai fait le plombier, le métallo, l'imprimeur, le pâtissier. Aucun de ces métiers m'a intéressé, parce que j'étais voleur. Dans mon esprit, je pensais pas aller travailler. Et c'est vrai, la preuve, jusqu'à maintenant, j'ai jamais travaillé. Hein. Mon premier braquage, ça a été... je pensais pas que c'était aussi facile. J'ai 22, 23 ans. Je me souviens d'une personne qui était plus âgée que moi. La personne avec qui que je connaissais, elle m'a dit « Mais ce que tu fais, tu prends des risques inutiles de faire des cambriolages ou quoi que ce soit. » Alors que il m'a dit « Bon, ben voilà, il y a une petite caisse d'épargne à tel endroit, dans un petit village. » Il m'a dit « C'est facile à faire, tu rentres, tu braques, tu prends le coffre, il est ouvert, tu prends tes sous, tu t'en vas. » Et c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, je suis rentré, j'ai braqué la personne. J'ai jamais été un garçon violent, je veux dire. J'ai braqué, j'ai vu que la personne, elle a eu peur, ce qui est normal qu'il soit choqué. C'est évident pour quelqu'un de voir arriver quelqu'un avec une cagoule et une arme à la main. Ça a été rapide, c'était plus rapide que faire la queue à la sécurité sociale. Ça a dû me prendre même moins de 10 minutes. Et à la sortie, j'avais l'époque, c'était en francs. J'avais gagné quand même 100 000 francs. C'est royal, à partir de là où vous dites que c'est facile, que l'argent y rentre facile, donc on commence à gaspiller, à jeter les sous à droite, à gauche, à vouloir avoir la belle vie. Et on ne fait pas attention à l'argent, puisqu'on se dit que c'est aussi facile d'aller les récupérer. On se dit, bon, demain ou après-demain, je peux aller faire un autre petit braquage et je vais récupérer autant. Donc, à partir de là, on jette les sous par les fenêtres. Hein. C'est de là qu'on dit que l'argent mal acquis ne reste jamais. Hein. La peur, je l'ai au départ, la peur, dans la préparation. J'ai toujours peur de l'impondérable, je me dis toujours je vais avoir quelqu'un qui doit entrer, il risque d'y avoir de la police, je pense à ces petits trucs, mais après quand je me donne le top départ que j'y vais, la peur elle n'est plus là. Elle y est, mais on la domine. Mais après c'est même plus une peur, c'est une jouissance, on lâche la pression, elle le lâche, on est content, hein, on parle tout seul. Et c'était ça le plaisir, tourment, la peur. Lui qui n'a pas peur, il est inconscient. Je n'ai jamais tiré. J'ai eu cette chance de ne pas tirer sur les gens. La chance de ne pas avoir tué quelqu'un ou blessé quelqu'un. Moi, je braquais que des petites caisses d'épargne de village. Pas beaucoup de personnel, c'est vite fait. Enfin, c'est comme si vous rentrez dans un bar et vous allez aux toilettes et que vous ressortiez. Il n'y avait pas de système comme il y a maintenant, il n'y avait pas de sas, il n'y avait pas de vigile. C'était facile, comme on dit. Facile, oui, facile. Maintenant, pour aller faire un braquage, il faut bientôt arriver avec un camion blindé, casser les portes, et encore on arrive dedans, on ne trouve plus de sous, c'est tout par carte. Et quand vous arrivez dans les établissements, maintenant, il y a marqué cet établissement, il n'y a pas de fonds. Il n'y a plus de sous. À l'époque, j'étais sûr de prendre de l'argent et de pouvoir vivre un petit moment. Mais là, maintenant, si je vais faire un braquage, je ne sais pas, 2 heures après, je suis obligé d'aller faire un autre parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, c'est pas intéressant. Hein. Je l'ai fait quelques années. J'ai commencé en 82, j'ai fini en début 85. En 85, je me suis pas arrêté. On était trois. On devait faire une séquestration. À Ben Carrefour, il y avait les mammouths. C'était le directeur de ça, il avait les clés du coffre. On devait le séquestrer à la maison, l'amener au coffre et lui faire ouvrir. Attacher sa femme et ses enfants. Et avant, c'était facile. C'était pas les Brinks qui avaient les clés. Là. C'était eux qui avaient tout. On savait qu'il était rentré de beaucoup de liquide. À l'époque, il n'y avait pas trop de cartes bleues, donc les gens se payaient en liquide. On savait qu'il y avait quand même des sous, et c'est là qu'on s'est dit, on va le faire. Le jour où on s'est mis en préparation, qu'on devait attendre la personne, parce que la personne devait la percuter en voiture pour qu'elle la fasse sortir de la voiture et la mener à la maison. Je mesure le risque, mais j'y vais. Et on nous avait balancé, et on s'est fait arrêter. J'ai été condamné à 5 ans de prison. Et je suis sorti après ma peine. Je me suis lancé dans les stupes. J'avais une truc dans ma tête, quand je me faisais arrêter pour quelque chose, je ne le refaisais pas. La peur de la récidive. Je me disais toujours que si on m'arrête pour autre chose, ce ne sera jamais la même chose. Donc à partir de là, je ne risquais pas une double peine, vous voyez, qu'avec la récidive, c'est dangereux. Donc j'avais une façon de vivre qui était, tu te fais arrêter pour quelque chose, tu as été condamné, trouve quelque chose. Là, à cette époque-là, ça a été les stupes, fin des années 80, les grosses années à Marseille, ça a été... On se dit, je ne suis pas plus con qu'un autre, je vais me mettre de vin et je vais vendre, moi aussi, je vais faire le commerçant. Hein. Et c'est là où on commence à devenir feignant, parce qu'il y a des sous qui rentrent faciles.
France Culture, les pieds sur terre.
Le milieu de la drogue, c'est un milieu vraiment sale, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas avoir comme ça, c'est dégueu, même pratiquement à votre propre frère. Je veux dire, s'il touche à ça, c'est plus le même, hein, ils sont capables de tout. Il n'y a pas d'amis dans ce milieu. Du coup, j'achetais à une personne que je savais la marchandise qu'il avait, de l'héroïne, la cocaïne, du cannabis, de l'herbe, tout ce que vous pouvez me demander. Toutes les... Voilà, c'était au supermarché, je veux dire. J'avais l'appartement pour conditionner, je conditionnais ma marchandise, je descendais en bas du couloir, je vendais, je remontais. J'avais mes ouvertures, j'ouvrais à 9h le matin, je fermais à 17h le soir. Si vous veniez après 17h, il n'y avait plus rien. Je veux dire, c'était comme Carrefour, voilà. Et le week-end, on ouvrait un peu plus tard. Parce qu'on savait que les gens y sortaient, c'était simple. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ah, j'ai eu une vie, une belle vie, vraiment 2 ans de belle vie, vraiment, je ne me refusais rien. Partir en Thaïlande, revenir, rester un jour à Marseille, repartir à Paris, et revenir à Marseille, refaire un peu de sous, repartir en Italie, sans compter. S'acheter une moto, vous voyez le truc le plus fou, je veux dire, tu ne refuses rien. Tu rentres, tu payes, tu t'en vas là. Vous voyez ce petit plaisir hein. Si les gens vous regardent en face, ils vous voient habillé, ils croient que vous n'avez pas de sous dans la poche, vous leur sortez les palettes. Je me suis pris pour quelqu'un d'autre, j'ai commencé à mettre le nez dans la cocaïne, j'ai commencé à m'envoyer beaucoup de coke dans le nez. Du moment que commence à se mettre un produit dans le cerveau, on n'est plus le même, c'est-à-dire on pense qu'on est les maîtres du monde, on ne nous arrivera jamais rien. Et effectivement, 2 ans après, on m'a attrapé pour vous dire que le jour où on m'a arrêté, j'étais content. Content parce que ça m'a permis de décrocher de toutes ces drogues. Ça m'a sauvé la vie parce que je serais mort peut-être d'un coup de couteau, une personne m'aurait tiré dessus ou j'aurais fait une overdose. Le fait d'être rentré en prison m'a sauvé. Pendant 3 ans, j'ai pu rien toucher, j'ai pu me faire une santé, j'ai pu me sortir carrément tout ça de la tête. Et c'est en prison que j'ai appris que j'étais séropositif. Fin des années 90, ouais, vers là. Je ne sais pas si j'ai l'attrapé en me piquant ou en couchant. À partir de là, on commence à réfléchir, à se dire, je vais passer, je fais un sursis. Parce que moi, je ne l'ai pas annoncé de suite à la famille. Voilà, on arrivait vers la... vers la trentaine. J'ai eu la chance d'avoir un petit avant. Et comme j'étais un bouquin dans la vie, c'est-à-dire bouquin, j'étais avec une fille, c'était un soleil, c'était sincèrement... elle ne méritait pas d'avoir la vie que je lui ai donnée. Et j'ai préféré la quitter. Mais on est resté en très bon terme. elle a élevé le petit. Voilà, tout simplement, le petit. J'ai dit, ça va, si je dois mourir, j'ai laissé mon nom. Pour moi, personnellement, toucher à l'héroïne, c'est toucher au malheur, s'envoyer du malheur. Il n'y a rien de bon qui sort de là. L'argent, il ne reste pas. L'argent, il est sale. Pour moi, c'est de l'argent du malheur, c'est de l'argent de la mort, vraiment. On ne peut pas en profiter sainement. Après, le fait d'être en prison, ça vous permet quand même, quand on est enfermé dans les cellules, on apprend à se connaître. J'ai essayé de me faire une introspection. Si on ne fait pas de retour en arrière, voir les erreurs qu'on a faites, on ne peut pas avancer. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas bons. La drogue, c'était pas bon. J'ai dit, ça, je n'y toucherai plus jamais. Et c'est ce que j'ai fait en sortant. La prison, elle m'a servi de changer de spécialité. En sortant, après, comme je ne suis pas un ouvrier, je veux dire, je n'ai pas de métier. Je veux dire, je ne me voyais pas aller travailler, faire le manœuvre pour quelqu'un. Et en plus que j'avais... Non, je ne me voyais pas travailler, me lever à 5h du matin, me faire crier dessus pour 1000 euros, alors que j'ai eu des sous auparavant. C'est-à-dire, comme j'ai connu l'argent, je ne peux pas. Je savais qu'il y avait la possibilité, avec ce que je connaissais de la vie, de pouvoir les gagner de suite, c'est-à-dire rapidement. Et là, il fallait attendre un mois pour pouvoir gagner un mois de salaire. Je n'avais pas le courage. Ça fait que j'ai escroqué les banques. Du coup, c'était plus tranquille, parce que là, qu'est-ce que je voulais? Je voulais les riches. C'est facile à ouvrir un compte, vous arrivez, vous mettez un peu d'espèce sur votre compte, il vous voit arriver beau comme un soleil, il se dit, il y a bonne maison, lui. Et après, à vous lui demander des crédits, ils vous font des prêts, ils vous donnent des sous. C'est eux qui vous forcent à prendre de l'argent. C'est vrai, on leur dit achetez, tenez, on vous prête. Mais la différence, c'est que moi, je ne remboursais pas. J'ai réussi à mettre un peu de sous de côté, je me suis ouvert un petit snack, je commençais à tout simplement à vivre. Tranquille, à essayer de rentrer à la maison, dormir, et quand j'entends, et surtout que marcher dans la rue, quand j'entends un coup de frein, que c'est la police ou quoi, je sais que c'est pas pour moi. Je suis resté comme ça jusqu'en 2007. Hein. Un jour, j'accompagne une amie à moi au chômage, et je rencontre un ami à moi, le hasard. Cet ami, il est mort maintenant, il s'est fait tuer il n'y a pas longtemps. Il avait l'habitude de faire des brinks, ce garçon. Et quand je l'ai vu, j'ai vu un brinks. Et je lui ai demandé s'il n'avait pas quelque chose à faire. Il m'a dit non, il n'y a pas quelque chose à faire, mais on peut aller chercher un ami à nous. Il m'a expliqué que c'était d'aller faire évader une personne. Il m'a dit, il me manque quelqu'un, est-ce que tu veux venir? Et je lui ai dit de réfléchir. C'était au chômage ça, c'est-à-dire donc j'ai cherché du travail. C'est à Pôle emploi carrément que j'ai rencontré mon patron. Des fois la vie elle est bizarre, vous voyez, hein, je suis allé chercher... Du travail, mais j'ai pas trouvé le bon employeur, ça a été. Et cela s'est passé. Je l'ai rencontré, oui, le lundi. Et l'affaire, elle s'est faite à la fin de la semaine. Mais il faut se rappeler ce contexte. 2007, c'est l'élection de Sarkozy. Il a été là, mon plaisir, de pouvoir lui faire fermer sa gueule à lui. Parce que c'est pas plus escroc qu'eux, pas plus menteur qu'eux, déloyal. C'est vrai que j'étais en dehors de la loi, mais... C'était pas comme ces gens hypocrites là. Et ça s'est passé, était là le plaisir. Le 14 juillet à Grasse. Cela s'est fait en 10 minutes. On est arrivé, on avait loué un hélicoptère. Hein. Ça a été un pilote, lui pensait qu'il allait partir pour faire une balade dans les gorges du Verdon, mais il s'est trompé de gorge. On était, je dis pas de bêtises, 4 pour prendre l'hélicoptère, pour aller dans la prison, pour ressortir. Et 2 personnes qui sont venues nous récupérer. En tout, on était 6. On est rentré dans les bureaux de la société d'hélicoptères, on les a braqués, on les a attachés, on a pris le pilote, on est monté de l'hélicoptère, on s'est posé sur le toit de la prison, on a ouvert la porte qu'il y avait sur le toit, on est rentré dans la prison. Ils n'ont pas le droit de tirer les gardiens dans une prison, non. C'est interdit par la loi, ça. C'est vraiment dangereux de tirer sur un hélicoptère si le réservoir explose. Imaginez un peu ce que ça peut faire, les dégâts. Ça, on le savait que c'est interdit, c'est la loi. Ensuite, on a mis un jour le Mirador, mais on n'a pas tiré. Et le Mirador non plus, je veux dire, lui, c'est quoi? C'est un ouvrier. Mirador, c'est un simple employé. Il va pas mourir pour 1200 euros par mois, quand même. On est allé chercher notre ami et on est parti. L'évasion à elle-même sur le toit, elle a duré 10 minutes. Le soir à 8h, j'étais chez moi. je vais le dire, en train de me faire une jouée, boire une thé et regarder le feu d'artifice et penser à Sarkozy. Je me suis senti grand, je me suis senti bien, tout simplement, voilà, on a réussi.
Un hélicoptère survole la maison d'arrêt de Grasse. À son bord, trois hommes cagoulés et armés obligent le pilote à se poser sur le toit d'un local technique de la prison. Le moteur continue de tourner, deux hommes descendent et se dirigent vers le quartier d'isolement.
Il a posé là-bas, il est resté 5 minutes sur un toit et 5 minutes après, il a redécollé.
En 5 minutes, les complices de Pascal Payet ouvrent la porte de sa cellule à l'aide d'une lance thermique, puis les trois hommes remontent dans l'hélicoptère. L'écureuil prend alors la direction de Brignoles, atterrit dans la cour de l'hôpital. Mais Pascal Payet et ses complices ont auparavant forcé le pilote à faire une escale dans la vallée de la Siagne.
On a posé, je ne sais pas à ce moment-là si quelqu'un est sorti ou pas, on a posé et c'est tout.
C'est un champ près d'ici ?
C'est un champ entre Grasse et Cannes.
À l'atterrissage à Brignoles, le pilote est sorti de l'appareil, menotté à la grille d'un cimetière tout proche. Les comparses s'éloignent, ils sont toujours en cavale, tout comme Pascal Payet, un roi de l'évasion en hélicoptère.
Trois mois plus tard, on s'est fait arrêter. Pour l'évasion, j'aurais pu risquer le maximum de la peine. J'ai pris une peine à un chiffre. J'ai pris 6 ans de prison. Et quand on prend 6 ans de prison, on se dit « Oh, j'ai encore eu de la chance ». Tu es malade, mais tu as la maladie, mais tu es encore debout, tu es en pleine forme. Quand tu sors, souffle un peu et fais souffler les autres. Parce que devant ma mère, 80 ans encore, et si elle le meurt que je suis en prison, comment je fais?
Est-ce que vous avez eu peur pour votre fils?
J'ai eu un peu peur. Il a fait un braquage, il s'est retrouvé en prison. Mais quand il est rentré en prison, j'étais en prison, je ne savais même pas qu'il était en prison. C'est quand ma sœur est venue me voir au parloir, elle me dit « Ah, ton fils, il est là !»« Comment mon fils, il est là ?» Il faisait tout pour pas me voir, il savait que j'étais là. On est restés longtemps ensemble, on a appris à se connaître. Ça lui a servi de leçon, hein. Le fait de ne pas voir son petit grandir, et sa fille aussi de ne pas la voir grandir. Je veux dire, on se dit, bon, j'ai gagné un peu des sous, mais après, je vais les redonner aux avocats et en parloir et un mandat. À la sortie, j'ai rien gagné, j'ai perdu des années de prison, hein, des années de vie qui sont irrattrapables. Après, je suis sorti, et lui, il est sorti. Et maintenant, tout va bien. Je suis à presque plus de 15 ans de prison. C'est irrattrapable, ça. Elle n'a pas de prix, la liberté. Mais maintenant, on le comprend. Mais auparavant, non. Je regrette rien de ma vie. Sincèrement, je regrette rien. Mais comme on dit maintenant, je suis à la retraite. Voilà. Maintenant, j'ai autre chose. J'ai mes petits-enfants et c'est eux que je m'en occupe. Voilà. Il est là, mon plaisir, maintenant. Excusez-moi, il y a le téléphone. Allô, maman.
Ça va, maman?
Oui, impeccable. Je vais y aller, là, tout à l'heure, là. Je vais y aller, je vais monter le linge. Ça va. Allez, attends leur main. C'était maman qui appelait. Une mère m'a dit, maman, c'est de l'or, moi. Elle n'a jamais jugé personne. Elle n'a jamais été d'accord avec ce que... Elle n'a jamais accepté un franc. Ma mère n'a jamais voulu que je lui donne de l'argent du trafic. Elle m'a toujours dit, mon fils, je vous ai élevé tous les 8, j'ai pas besoin de toi pour manger. T'inquiète pas, maman. Je sais que toi, tu as toujours été là. Alors que le reste... ils sont où? Les soi-disant amis, parce qu'après, il n'y a pas beaucoup d'amis dans ce milieu. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas... C'est que pour soi, c'est un monde de loups. C'est ça, la vie, là-dedans. Hein. Voilà. Là, maintenant, je vais aller au Beaumont, maintenant. Je vais au parloir avec mon petit-neveu qui rentre en prison. Ouais, je vais aller le voir, lui dire un peu. Voilà. Surtout, ne pleure pas. Quand tu as fait tes conneries, tu n'as pas appelé maman? C'est pas maintenant que tu es enfermé que tu pleures et que tu appelles maman. Quand tu vas sortir d'ici, qu'est-ce que tu veux faire? Retourner? Ou faire comme ton père, aller travailler?
My home has no door. My home has no roof. My home has no window. It ain't waterproof. No handle. My home has no key.
you're here to rob me. There's nothing to steal.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Le Braqueur, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Alexandra Malka. Merci à notre braqueur Abdel, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Abdel. Il souhaite évidemment rester anonyme. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent likes, partages et followers.